BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous du week-end. Vous le savez, de quoi je me mêle. Toute l'actu high-tech qui est disponible bien sûr sur 01 TV, sur la chaîne YouTube, sur 01net.com, sur les box et puis diffusée le dimanche matin sur BFM Business, Radio et TV. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver avec tout à l'heure en deuxième partie. Le directeur de Panasonic sera notre invité, Eric Novel. Et avec lui, on reviendra sur les annonces qui ont été faites. Fait lors de ce CES 2021 virtuel. Voilà comment Panasonic a vécu ce CES et puis quelles sont les nouveautés en matière de télé, en matière de purificateur d'air aussi, puisque Pana est vraiment très axé là-dessus. Et puis on évoquera aussi bien toutes les autres nouveautés, notamment un nouvel appareil photo pour les vlogueurs qui fait aussi caméra. On en parlera donc tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle et avec le hashtag DQJMM, vous pouvez réagir en temps réel sur Twitter. Merci d'être là. Bienvenue. Et on commence avec le club de la presse IT. Et pour cette semaine d'actualité très chargée, nous avons pris le meilleur du meilleur, le best-of du best-of. Nicolas Lelouch, bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour à tous.
Journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette, bien sûr, toujours fidèle au poste. Salut bonjour Emmanuel, François. Journaliste à l'Express. Alors, ça ne chôme pas cette semaine, Emmanuel. Emmanuel qui est, vous le savez, à la frontière entre l'éco et la tech sur l'Express. Les résultats financiers de toutes ces grandes boîtes américaines sont tombés. Nico, Emmanuel, on commence par Panasonic. Panasonic, ça sera tout à l'heure, juste après. Apple, donc, qui a communiqué donc des résultats financiers exceptionnels, encore une fois, mais on s'y attendait plus ou moins.
Hein. Ouais, c'est des résultats records. Hein. Pour la première fois sur un trimestre, Apple dépasse le 100 milliards de dollars de revenus. On est à 111 milliards. Alors, porté évidemment par l'iPhone, hein, le dernier iPhone 12, qui fait à lui seul 65 milliards, donc c'est quasiment 60%. Du chiffre d'affaires d'Apple, exactement. La deuxième division, c'est en fait les services qui passent à 15 milliards, donc en forte croissance, hein, qui est le pari de Tim Cook, hein, de développer les services. Donc,
il est en train de réussir ce pari.
Il est en train, voilà, tout doucement, parce que ça passe de 12 milliards à 15 milliards, donc c'est 3 milliards en plus, c'est pas si mal, hein, mais c'est vrai que par rapport à l'iPhone, hein, qui explose. Puis surtout, la grosse nouveauté, ce trimestre, c'est la Chine qui représente maintenant 21 milliards de chiffre d'affaires, très proche de l'Europe qui est de 23 milliards. Donc il est fort probable que le marché chinois dépasse d'ici peu le marché européen pour Apple, et porté par la 5G, hein, puisque maintenant on a plus de 100 millions d'abonnés à la 5G en Chine. Donc Apple en profite à plein avec l'iPhone 12, qui était un des terminaux les plus attendus, hein, pour la 5G. Donc on voit effectivement qu'Apple est en train de surfer en pleine période de pandémie sur la reprise chinoise d'un côté, et puis sur l'arrivée de la 5G de l'autre, en Chine, mais aussi à l'extérieur.
Est-ce que le marché du PC ressort en fait dans ces résultats aussi, enfin du Mac plus précisément, parce que c'est vrai que on se rend compte quand on discute avec les constructeurs de ces machines qu'il y a eu une explosion des ventes. Est-ce que Apple a aussi bénéficié de cet engouement?
En fait, alors tous les secteurs chez Apple sont en progression,
sont au vert,
y d'accord. Compris les Mac, y compris les iPads, tous progressent, mais effectivement, ils ont aussi bénéficié de l'effet confinement. Puis je pense que Nicolas en parlera, de l'effet aussi de la nouvelle puce qui est un véritable carton chez Apple.
Oui, Emmanuel, donc des résultats financiers excellents, on s'y attendait, hein, bien sûr.
Oui, on s'attendait, il y avait des rumeurs depuis quelques semaines comme quoi Apple allait justement passer cette barre des 100 milliards, ça a été le cas largement, c'est pas vraiment étonnant. Le Mac, en effet, il va bien. Il représente 8,7 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est une très belle augmentation par rapport à ce que Apple proposait l'année dernière. Tim Cook l'a d'ailleurs dit lui-même lors d'un appel avec les investisseurs, c'est que les Mac Apple Silicon sont en train de réussir leur pari, ils rencontrent vraiment un public différent, et d'ailleurs ça risque de se manifester en 2021, puisque la grande majorité de la gamme, comme on le disait la semaine dernière, va passer au processeur Apple Silicon, donc c'est vraiment un pari réussi pour Apple.
D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Tout va bien chez Apple, et Apple qui n'arrête pas, qui, bien évidemment, et on en parlait déjà la semaine dernière, on connaît quasi leur roadmap, hein, pour les semaines et les mois qui viennent. On a encore de nouvelles fuites.
Il y a des nouvelles fuites, toujours la même personne, toujours Mark Gurman de Bloomberg, vous savez, ce fameux journaliste réputé pour ses sources sur Apple. C'est lui qui nous avait dit que les MacBook allaient en quelque sorte faire un restart, un retour en arrière et abandonner toutes les erreurs qu'Apple a pu faire. Donc en l'occurrence, on sait que la Touch Bar va disparaître des MacBook Pro, on sait que le port MagSafe aimanté va revenir pour charger les MacBook Pro. Tout ça, c'est des retours en arrière bienvenus. Maintenant, ce que Mark Gurman a ajouté cette semaine, c'est que le MacBook Pro va récupérer le port carte SD.
Tiens.
Ce qui était extrêmement demandé par les professionnels. Et on se rappelle de Phil Schiller, donc le vice-président d'Apple, qui disait encore il y a un an, il y a deux ans, lorsqu'il y avait eu les annonces de Mac Pro, la carte SD ne reviendra pas, oubliez-la, c'est le passé. Donc c'est assez marrant de voir que Schiller, qui d'ailleurs a perdu en position, maintenant il est considéré comme un vétéran d'Apple, il est encore là, mais c'est plus lui qui gère le marketing. Jonathan Ive aussi, qu'on connaît pour son goût du minimalisme au niveau du design, n'est plus là. Et on peut imaginer que tous ces départs font qu'Apple est une entreprise qui est en train de changer un petit peu de philosophie, qui est moins dans imposer aux utilisateurs des choses et qui est plus justement dans essayer d'être à l'écoute. Donc c'est une bonne chose. Et l'autre annonce de Mark Gurman, pour le coup c'était le produit qui était oublié, c'était le MacBook Air, il n'y avait aucune fuite là-dessus. C'est l'ordinateur le plus populaire d'Apple. Hein. Et ce qu'on sait, c'est que le MacBook Air, va y avoir une version a priori haut de gamme avec un processeur Apple Silicon plus puissant, avec le retour du MagSafe, et donc ça serait cette génération qui arriverait dès la fin d'année 2021.
Donc dès fin d'année 2021, et avec cette montée en puissance du fameux processeur Apple M1 qui, petit à petit, va remplacer Intel, hein, on est d'accord. Hein.
Oui, il devrait rester fin 2021, sauf gros retournement de situation, uniquement le Mac Pro avec un processeur Intel. Les autres devraient tous passer au Apple Silicon.
Autre résultat financier, puisque c'est la période, c'est Microsoft.
Oui.
Qui surfe aussi, Emmanuel, sur de bons résultats.
Oui, pour différentes raisons, là, pour le coup. Enfin, il y a des raisons communes avec Apple, hein, qui est notamment le développement du télétravail. Donc, Microsoft Teams, qui permet de faire de la visioconférence, a drivé, en fait, les résultats de Microsoft, hein, qui fait plus de 43 milliards de chiffre d'affaires. Donc, cette division-là, entreprise, en gros, service aux entreprises et cloud, puisque maintenant, c'est la division telle qu'il la nomme, se porte plutôt très bien. Hein. Je crois que c'est de l'ordre, de 15 milliards de mémoire, non pardon, 12 milliards de dollars hein, de chiffre d'affaires. Après, il y a Office qui lui aussi peut passer par Teams, hein, qui est la deuxième vache à lait de Microsoft. Et puis la troisième, c'est les jeux, notamment la division Xbox, hein, avec les ventes de la Xbox, et puis les ventes aussi de jeux. Et puis en dernière position, LinkedIn, le réseau social qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est pas la grosse réussite hein, pour l'instant, ce réseau social qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années de cela. Donc, mais en tout cas, Microsoft profite à plein de la pandémie, du télétravail, et de la visioconférence. Donc voilà, il fallait acheter du Microsoft il y a quelques années, comme il fallait acheter de l'Apple. Il n'y avait pas de devenir riche en pandémie.
C'est vrai. Et puis Microsoft qui bénéficie d'une aura incroyable hein, maintenant sur les PC. Vous avez même des touches Teams qui vont arriver, les nouveaux PC, comme on a sur les télécommandes, on en parlait. Hein, le bouton Netflix, et bien maintenant, sur un PC, vous aurez le bouton Teams.
En revanche, disparition du bouton Skype, hein, pour le coup.
Oui, mais alors, j'en ai jamais beaucoup vu des boutons Skype sur les PC.
Il y avait
hein,
des télés,
hein.
On en parlait à Panasonic. Détali qui est intégré à un moment donné Skype en natif. Ouais.
C'est vrai. Ouais. Donc voilà, belle réussite pour Microsoft. En revanche, dans le gaming, avec la Xbox, ça patauge un peu quand même, niveau com. Hein.
Alors au niveau des résultats, c'est très bon, parce que les ventes ont augmenté de 86% par rapport à l'année dernière. C'est logique, hein, vous me direz, il y a eu le lancement des séries S et séries X le 10 novembre, ça tombe pile pendant ce trimestre, c'est comme pour Apple, c'est le trimestre où il y a eu le plus de lancements. Maintenant, niveau com, en effet, il y a eu des petits problèmes cette semaine chez Microsoft, puisqu'ils ont annoncé en fin de semaine dernière que le prix du Xbox Live Gold, et vous savez, en fait, c'est cet abonnement qui permet de jouer en ligne, c'est-à-dire que si vous avez une Xbox, vous pouvez jouer à vos jeux avec le mode histoire, mais si vous voulez jouer avec d'autres personnes, il faut forcément payer. Et ils ont dit que cet abonnement, il allait doubler de prix, parce qu'il était temps en fait de revoir un petit peu les gammes.
Oui, parce qu'ils avaient envie de gagner un peu plus d'argent.
C'est ça, mais dans l'idée, en plus ce qu'ils ont fait est très étonnant, au lieu d'augmenter tout simplement les prix, ils ont dit avant vous payez 45€ pour un an, maintenant ça sera 45€ pour 6 mois, mais sans proposer d'option d'un an. Vraiment extrêmement étonnant cette communication qui a été très mal vue par les joueurs. Le but hein, c'était de promouvoir, vous savez, l'abonnement Xbox Game Pass, qui est le Netflix du gaming,
bien sûr,
qui permet d'avoir plein de jeux en illimité.
On télécharge. En fait, on loue des jeux, en quelque sorte.
Exactement, et l'idée de Microsoft était de rendre l'abonnement Xbox Live tellement cher que les gens ne l'achètent plus et passent tous au Xbox Game Pass. Le problème, c'est que ça a été très mal pris. Ils se sont fait tout simplement démonter sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et le soir même, il y a eu un communiqué nocturne de Microsoft qui commence par « Nous nous sommes plantés » et qui dit qu'ils n'auraient jamais dû augmenter ses prix, que c'était une erreur, qu'on maintient les prix d'avant. Et encore mieux, Surprise générale. Aujourd'hui, quand vous achetez... Vous savez, il y a des jeux qu'on appelle free-to-play, c'est des jeux gratuits. Il y a Fortnite, il y a Rocket League, il y a ce genre de jeux. Sur PlayStation et sur Nintendo, vous pouvez jouer aux jeux free-to-play, même si vous n'avez pas d'abonnement. Alors que chez Microsoft, il fallait quand même payer. Et bien Microsoft a dit, en plus de nous être plantés, on a même décidé de faire un geste. Maintenant, c'est gratuit pour tout le monde, plus besoin d'abonnement sur les jeux gratuits. Donc il y a vraiment... On se demande pourquoi ils se sont tirés cette balle dans le pied, en fait. Ils ont réussi à faire le plus gros bad buzz de l'histoire, se faire absolument atomiser sur les réseaux sociaux.
C'est ça. Pour et au en final, fait, ils rétropédalent.
Ne pas augmenter, voilà. Et en plus, perdre un potentiel de nouveaux abonnés sur les jeux gratuits. Donc vraiment très étonnant comme communication. Maintenant, c'est au bénéfice des joueurs. Faut quand même noter que ce changement n'est pas encore appliqué. Ça sera a priori pour la fin de l'année.
Voilà. Et puis il y a donc Microsoft avec cette option qui s'enlève, revient au niveau, c'est ce que tu disais, de la Nintendo Switch et de la PS4. Hein,
exactement. Et c'est une très bonne chose pour la petite console, vous savez, la Xbox Series S, qui coûte moins de 300€. Pour le coup, vu son prix, avec le Game Pass, les jeux gratuits, on commence à avoir un produit extrêmement intéressant pour les néo-joueurs.
Bien sûr, avec quand même une console next-gen, une vraie next-gen.
La qualité graphique n'est pas incroyable, mais c'est quand même pas mal.
C'est déjà pas mal.
Des temps de chargement, des jeux, c'est très bien.
Après toutes ces bonnes nouvelles, il faut quand même parler de Huawei, où là ça se corse un peu quand même. Enfin c'est mitigé, parce que d'un côté Huawei ouvre une usine en France qui va rayonner en Europe, on va en parler dans un instant. En revanche, c'est moins glorieux côté smartphone, et Huawei serait prêt à céder en fait ces haut de gamme des smartphones, hein, c'est ça.
Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est en tout cas une information de Reuters qui est tombée cette semaine, qui annonce que Huawei se serait rapproché d'un consortium d'entreprises soutenu par le gouvernement de Shanghai pour leur céder une partie de la division smartphone. J'ai une partie parce qu'on parle du haut de gamme en l'occurrence, les gammes P et les gammes Mate, donc c'est celles qui sont très sincèrement les plus impressionnantes, celles qui cartonnent en Europe notamment, ça représente 40% des volumes de vente aujourd'hui. Le reste, c'est de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, et c'est présent dans plein de marchés. La raison est assez simple, Huawei ne peut plus fabriquer de puces, ne peut plus se produire en beaucoup de composants, et soit ces gammes vont mourir, soit elles doivent être cédées. Maintenant...
Sauf en Chine, c'est ça le paradoxe.
Sauf en Chine,
c'est
bien sûr.
C'est que la gamme P et Mate... continue de bien marcher en Chine, parce que finalement là-bas, comme ils n'ont pas besoin des services Google,
pas en Chine, hein, en Russie, dans beaucoup de pays où c'est aussi le cas, où les services Google ne sont pas aussi indispensables qu'en Europe. Maintenant, s'ils ne peuvent plus fabriquer de puces, le problème va être tout autre, hein, c'est complètement différent.
Là, que ce soit en Chine ou en Russie ou en Occident, ça va être problématique.
Maintenant, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que Huawei nous a immédiatement contactés pour dire que c'était pas la première fois que Reuters les attaquait avec des mensonges, et que c'est absolument faux, que ils veulent conserver les gammes P et Mate, qu'ils s'en sortiront quoi qu'il arrive, qu'ils réfutent complètement toutes ces rumeurs-là. Ils disent déjà qu'ils ont vendu Honor pour justement permettre à Honor d'avoir des téléphones avec Google, mais qu'ils ne veulent pas vendre les gammes Huawei. Donc disons que pour l'instant, la rumeur, on va la prendre vraiment avec beaucoup de pincettes. C'est très peu probable que ce soit le cas, en tout cas pour l'instant. Va falloir surveiller aussi ce qui se passe aux États-Unis, puisque la nominée par Joe Biden au secrétariat au commerce a laissé entendre qu'elle veut rester très ferme envers la Chine, mais en même temps, elle refuse de dire si Huawei et les autres vont rester sur liste noire. On peut imaginer que le nouveau président veut pouvoir négocier avec son homologue chinois. Donc, est-ce que Huawei va peut-être s'en sortir ? Est-ce que peut-être que Huawei attend de voir ce qui va se passer aux États-Unis avant de prendre une décision ? C'est possible, mais pour l'instant, pas de vente, mais des rumeurs.
Emmanuel, le nouveau gouvernement américain ne va rien céder, non ? Visiblement, on a l'impression qu'ils vont rester sur la même ligne, qui est quand même assez stricte, qu'avait initié Donald Trump. Hein.
Exactement, ceux qui pensaient effectivement un retour en arrière avec une élection d'un démocrate à la Maison-Blanche. Finalement, effectivement, c'est la continuité de cette ligne dure. Et puis la guerre commerciale, parce qu'elle dépasse très largement Huawei. Hein. Il y a plusieurs types d'activités qui sont visées dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On a parlé plusieurs fois, par exemple, des drones. On a parlé aussi des services de paiement, notamment WeChat de Tencent ou d'Alipay du côté de chez Alibaba. Donc, on est sur une guerre qui est tous azimuts et qui dépasse largement Huawei. En revanche, effectivement, ça peut être un levier de négociation à un moment ou à un autre. Donc, effectivement, je pense que Huawei a tout intérêt à attendre avant de céder ses terminaux. Sachant que, comme le disait Nicolas, c'est quand même pas loin de 50% de son chiffre d'affaires. Le reste étant en grande partie les équipements réseau, qui se portent très bien avec le déploiement de la 5G en Chine. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut à un moment donné avoir des terminaux à l'extérieur pour un rayonnement mondial, pouvoir vendre des terminaux aussi à l'étranger. Donc effectivement, c'est plutôt l'expansion de Huawei qui peut arriver à terme plutôt que la survie de Huawei qui, là, a priori, il n'y a pas de souci puisque le marché chinois constitue quand même une grosse part
sûr,
de son chiffre d'affaires.
C'est sûr. Mais c'est vrai que ces smartphones haut de gamme, c'était aussi la vitrine de Huawei, la vitrine technologique. Hein. C'est ce qui permet clair. Aussi à cette marque de rayonner, d'envoyer des signaux positifs, hein, surtout à l'industrie et à la concurrence. Là, s'ils arrêtent le smartphone, qu'est-ce qui reste? Bon, il y a la 5G, bien sûr. Il reste les PC, et encore, oui, on ne sait pas si les PC vont continuer.
Et les télés, alors il faut savoir qu'ils sont numéro 2 des télés en Chine.
En Chine.
Et donc ils vont sortir à un moment ou un autre.
Oui, ils ont des objets connectés aussi, etc.
Plein de choses. A priori, le focus en 2021 sur l'Europe, c'est les PC. C'est Huawei, il veut profiter de la pandémie et de plein de choses pour dire on fait les meilleurs PC et jouer là-dessus. Il y a encore une incertitude avec les États-Unis, mais c'est déjà moins mauvais que sur le smartphone.
Et puis l'autre élément, c'est qu'ils essaient de pousser HarmonyOS, qui est leur système d'exploitation concurrent d'Android, hein, donc il leur faut des développeurs pour porter les applications. Donc si on commence à dire qu'ils vont vendre Mate et P, les développeurs, ils n'auront plus aucun intérêt à aller sur HarmonyOS. Donc c'est totalement contre-productif, ce genre d'informations. Ça peut désolidariser les développeurs du monde entier. Ils vont se dire que ça n'a aucun intérêt de développer pour Huawei. Donc c'est vraiment très contre-productif, ce genre de rumeurs pour Huawei. Hein.
Alors, le paradoxe, c'est que si on s'intéresse à Huawei au niveau local, Huawei investit toujours. Et d'ailleurs, ils viennent d'investir dans une usine, je crois plusieurs centaines de millions d'euros, 200 millions.
200 millions, exactement.
200 millions, ouais. Une usine en France.
Exactement, qui commencera à produire d'ici, donc c'est dans le Grand Est, dans la région de l'Alsace, et qui commencera à produire à partir de 2023 des stations de base, donc 2G, 3G, 4G, enfin plutôt 3G, 4G, 5G, pour l'Europe, donc dont la France, hein, sachant qu'effectivement, Huawei continue quand même de pouvoir vendre ses équipements dans certains pays, notamment l'Allemagne. En France, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, mais un peu en dehors des grandes villes, ça reste possible. Donc, je pense que c'est aussi un levier de lobby pour Huawei sur le gouvernement, disant on va créer quand même 300 emplois à terme.
Bien sûr.
Donc on devient un acteur important, sans compter les centres de R&D hein, qui sont déjà présents en France, il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est un acteur qui essaie de dire on pèse dans l'économie française, on paye nos impôts, on crée des emplois. Donc, à un moment donné, on veut aussi participer notamment à la course de la 5G en France.
Oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu... Parce que ce projet d'usine date de quelques années déjà. Oui. Hein, ça fait quelques temps qu'on en parle. On aurait pu se dire qu'avec tout ce qui se passe concernant l'interdiction de la 5G de Huawei en France, dans certaines zones, ils auraient pu arrêter ce projet. Bah, mais finalement, ils le conservent.
Ouais, moi, je pensais qu'ils iraient plutôt en Allemagne. Mm-hmm. Parce que la chancelière Merkel ne s'oppose pas à Huawei aujourd'hui.
C'est ça.
Parce que le principal opérateur télécom, T-Mobile aujourd'hui, Deutsche Telekom et T-Mobile sont essentiellement équipés de Huawei. Ça leur coûterait excessivement cher de se passer de Huawei. Donc et l'Allemagne peut résister à la pression américaine de Washington qui demande d'abandonner Huawei. C'est un petit peu moins le cas de la politique française. Mais donc voilà, moi j'avais plutôt tendance à penser que c'est en Allemagne. Bon, je me suis trompé, c'est en France. Et tant mieux pour la France et tant mieux pour la création d'emplois.
Hein. C'est compliqué cette histoire de 5G pour Huawei en France,
Nicolas. C'est toujours compliqué pour eux. Après,
est-ce qu'ils sont les meilleurs, en matière de technologie 5G aujourd'hui?
Oui.
Beaucoup de gens le disent.
On peut le dire, oui, bien sûr. Je vous donne un exemple. J'avais fait il y a quelques semaines des articles sur 01net où j'ai testé la 5G de SFR et la 5G d'Orange, à Nice, qui est ma ville natale. Et il se trouve que...
Tu n'y sois donc.
Je suis Nice, vous ne le saviez
pas. Non, tu n'y jamais.
Je crois que tu n'as jamais signalé.
J'aurais dû le dire.
Moi, je pensais que tu étais de Dunkerque. C'est bizarre.
Je suis
Nice, d'accord.
Okay. Et du coup, le réseau de SFR à Nice est équipé en Huawei. Le réseau de Orange ne l'est pas. Je crois que c'est Ericsson.
De toute façon, c'est Ericsson ou Nokia, on est d'accord.
C'est Nokia ou Ericsson, mais j'ai un doute sur le coup. Ce que j'avais constaté, déjà dans les deux cas, la 5G elle est ultra volatile sur le 3,5 GHz, c'est-à-dire que si vous êtes près de l'antenne vous avez d'excellents débits et dès que vous en éloignez vous avez des débits de 80 mégas qui sont à peu près similaires
un peu comme le Wi-Fi
4G,
finalement
quoi. C'est pas fou, la seule différence c'est que avec les antennes de SFR, donc Huawei, si vous étiez un petit peu loin, vous aviez 80-100 mégas. Avec Orange, vous aviez 0,5 ou 1 mégas, ce qui est la preuve que Huawei malgré tout arrive à assurer un bon débit en étant loin de l'antenne, alors qu'avec les autres, il y a vraiment des grosses pertes. Évidemment, ce que je dis ne marche que pour Nice, ne marche que pour ce cas précis. Il y a plein d'endroits où ça ne sera pas du Huawei. Il y a plein d'endroits où les antennes seront configurées différemment.
Et puis, on est au début d'un réseau, donc j'imagine qu'il y a une optimisation qui va se mettre en place, etc.
Évidemment, mais surtout qu'il n'y aura pas que le 3,5 GHz, ça sera complété d'autres fréquences qui vont permettre d'étendre justement la couverture. Mais aujourd'hui, les antennes de Huawei, que ce soit nos tests ou ce que les constructeurs, opérateurs ont pu nous dire, sont bien plus performantes.
Emmanuel ?
Oui, je voulais juste tempérer un tout petit peu pour une chose, c'est que la 5G comme la 4G, c'est du débit partagé. C'est-à-dire dans une même cellule, s'il y a beaucoup de gens qui utilisent la 4G ou la 5G, ça diminue pour chacun le débit.
Oui, oui.
Et il faut savoir qu'Orange, c'est celui qui a le plus d'abonnés Donc bien loin devant SFR.
Oui.
Donc il est possible que tu sois dans une zone où il y ait plus d'abonnés 5G Orange.
Ouais, sauf qu'il était au tout début SFR. Du lancement, à mon avis, il n'y avait personne sur les cellules. Hein.
Ouais, ça c'est compliqué. Ouais.
C'était le premier jour du lancement de la 5G.
C'était vraiment pour donner un exemple. J'ai trouvé une antenne sur le toit d'un hôtel, je me suis mis en dessous, j'ai fait une mesure, elle était excellente, j'étais à 1000, j'ai marché de 10 mètres sur la droite, j'avais perdu, j'étais à 400. Et en rentrant un tout petit peu plus loin, derrière une porte, on était à 5 ou à 10, c'était fini. Donc non, il y a vraiment un problème aujourd'hui de stabilité sur la 5G, mais d'ici là, ça va s'améliorer et faut pas parler trop vite là-dessus.
Mais bien sûr. Et puis on pourra tester quand elle arrivera à Paris, si elle arrive un jour.
Si elle arrive
peut-être.
Bah, c'est toi qui as eu l'annonce, hein, fin février, c'est ça.
Xavier Niel, dans Tech & Co, l'émission que j'anime le soir sur BFM Business, avait annoncé fin février. Donc écoutez, on est fin janvier, dans un mois, on verra bien.
Ouais, on m'a dit que ça n'avançait pas du tout. Donc,
On t'a dit que ça n'avançait pas. Ouais. On n'est pas couché, hein, les amis.
Pas de suite.
Voilà, heureusement qu'on a la fibre à Paris, parce qu'autrement, on ne pourrait pas se parler. On enchaîne, tiens, avec là un nouveau géant du numérique, peut-être qui est en train de naître, Nicolas.
Peut-être.
Et qui vient de Chine.
J'ai envie d'y croire, en tout cas. Il ne vient pas vraiment de Chine, en réalité.
Il ne vient pas de Chine.
Il a été fondé par Carl P, vous savez, qui était le cofondateur de OnePlus, qui est un jeune, figurez-vous, suédois, élevé en Chine.
Ah oui.
c'est l'inverse.
Ça, c'est étonnant.
Il est né en Chine, mais il a grandi en Suède. Il est de nationalité suédoise.
D'accord.
Et Carl P, il est très charismatique. C'est une des rares personnalités chinoises qui est très populaire aux États-Unis. C'est-à-dire que les grands patrons, par exemple Lee Jun, qui est le patron de Xiaomi, il n'est pas du tout connu aux États-Unis. Il fait pas de conférences en anglais, il donne pas d'interviews. Mais Carl P, il adore parler à The Verge, il adore parler aux médias américains. Il tweet en anglais.
En fait, il a la culture américaine, la culture occidentale.
Je le connais un peu personnellement. On s'est déjà rencontré à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un. Je lui demande mais pourquoi vous faites pas de tablettes chez OnePlus? Bah parce qu'Apple, ils sont trop forts. C'est trop fort ce qu'ils ont fait. Il y a des fresques de Steve Jobs un peu partout dans le siège de OnePlus. C'est le plus grand admirateur de Steve Jobs, c'est Carl P. Et avec OnePlus, il a tenté de créer la marque Android façon Apple, en fait. C'était vraiment l'idée. Entre-temps, OnePlus, ça va pas très bien en ce moment. Vous savez, ils ont fermé tous leurs bureaux européens. Ils sont en train de se diversifier dans l'entrée de milieu de gamme, ce que Carl P me disait ne vouloir jamais faire. C'était vraiment le truc à éviter. Il voulait rester sur les bonnes priorités. Et en octobre dernier, il a quitté OnePlus. En disant,
donc ça veut dire qu'il y a un vrai malaise quand même.
Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il reste l'autre cofondateur, Pete Lo, chez OnePlus, mais Carl P est parti. Il est parti aux États-Unis, tout ça. Il bouge un peu en Europe. Il a recruté pas mal d'anciens de OnePlus avec lui au passage. Et il avait promis une nouvelle entreprise. Il a levé récemment 7 millions de dollars auprès de personnes assez connues, dont le youtubeur Casey Neistat et surtout Tony Fadell, qui était un ancien allié de Steve Jobs et un des gros créateurs de l'iPod et de l'iPhone. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même un gros lien, une grosse admiration pour Apple.
Tony Fadell qui vit souvent à Paris d'ailleurs.
Il vit souvent à Paris.
Il
vit
à Paris. C'est ça. Il était à Paris. Tony
Fadell. C'est même dans le 7e arrondissement.
Ah ouais.
C'est ça. Il est très proche de Xavier Niel, etc. Il se voit souvent. C'est quelqu'un qui
vit. Il a même une société de conseil à Paris.
Il soutient la nouvelle entreprise de Carl P, qui a un nom très original. Nothing, ça veut dire rien. Officiellement, selon Carl P.
C'est prometteur.
Moi, je trouve que c'est une connerie. Hein. Je me permets de dire ça parce que quand on tape Nothing dans Google, il n'y a rien. Si vous dites à Google Assistant c'est quoi Nothing, c'est le néant. Ben, il ne va jamais vous parler d'une marque. Quoi. L'idée, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont allés là-dedans. Mais il se fait le délire de dire qu'il veut que la technologie soit transparente et que l'utilisateur n'ait pas à s'en soucier, d'où le Nothing. Après, il y a aussi une phrase connue de Steve Jobs qui est Technology is Nothing. Moi, je la vois aussi énormément en connaissant Carl P et son attachement à ce genre de choses. Donc, il y a peut-être ça. Pour l'instant, il n'y a pas le produit. C'est drôle. Il ne propose rien.
au moins, la promesse est tenue.
La marque produit porte très bien son nom. Dans les prochaines semaines, prochains mois, ils vont annoncer un produit audio. Et après, à terme, ça sera un vrai écosystème. Donc, certainement du smartphone, d'autres choses. Nothing a vraiment de grosses ambitions. Et je dis justement que ce n'est pas une entreprise chinoise parce qu'elle est basée à Londres, elle aura des bureaux en Europe, mais pour l'instant, elle n'a pas vraiment le lien avec la Chine. Donc je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si Nothing sera positionné comme une entreprise tech européenne. Du coup, est-ce qu'on aura justement notre géant de la tech européen avec Nothing, avec
Carl P
qui est suédois? C'est pas forcément.
On
le voit comme une marque chinoise
hein.
Parce qu'on le voit comme le spin-off de OnePlus, mais pas du tout. C'est vraiment une initiative qui est basée en Europe. Donc à voir comment Nothing va évoluer.
Emmanuel, ça t'inspire? Carl Pay?
Attendons de voir ce que rien veut dire. Oui, parce que là, pour l'instant,
c'est vrai que pour l'instant, on a un nom qui est vide.
Mais c'est vrai qu'il a des investisseurs assez prestigieux, donc. Bon, ça, a priori, ça donne confiance.
Et puis, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même, qui a une vraie expertise dans le monde.
Qui a une philosophie dans le produit
qui
est assez proche de celle d'Apple, de vraiment faire du haut de gamme, d'essayer de faire ce que les gens attendent. Donc, non, il y a un potentiel.
Bon, un mot sur cette pandémie, forcément, on peut faire semblant de l'éviter, mais malgré tout, même dans la technologie, ça nous rattrape. En attendant, peut-être un durcissement hein, du confinement et de ce couvre-feu, hein, puisque c'est un petit peu ce qui est sur la table du gouvernement actuellement. C'est Google Maps qui va afficher bientôt les centres de vaccination. Nicolas.
Oui, Google qui avait déjà multiplié pas mal les initiatives en termes de lutte contre le Covid. On sait quand on tape Covid dans Google, vous avez un tracker hyper complet avec pays par pays, tout ça. Quand on tape dépistage Covid dans Google Maps, vous allez avoir des centres, la fréquentation, est-ce qu'il faut un rendez-vous. Et là, ils ont annoncé, pour l'instant, ça a l'air d'être uniquement aux États-Unis dans un premier temps, mais ça va évidemment être étendu au monde entier. Le fait que le mot-clé vaccination Covid va permettre de voir les endroits où on peut se faire vacciner, mais surtout, est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance ? À qui ce centre se destine-t-il ? Est-ce que c'est les personnels soignants ? Est-ce que c'est les personnes âgées ? Petit à petit, justement, avoir une carte assez précise, justement, d'où on peut se faire vacciner. Aussi aux États-Unis, ça arrivera certainement un jour en France, les concepts de vaccination drive-in sur des parkings où vous avancez en voiture, on vous vaccine et vous continuez la route. Donc l'idée, ça sera de répertorier tout ça dans Google Maps. Donc c'est une initiative assez bienvenue. D'ailleurs, je suis allé voir nous, on a Doctolib en France, hein, qui a été choisi par le gouvernement pour être la plateforme de réservation pour la vaccination. Et j'ai remarqué que il y a eu un changement sur le site. Avant, on vous disait qu'il n'y avait plus de rendez-vous disponibles. Maintenant, on vous dit le nombre de personnes qui vont se faire vacciner dans les prochaines semaines, au lieu de vous dire qu'il n'y aura plus de rendez-vous, ce qui permet de voir qu'il y a vraiment un succès rencontré. Donc, j'en profite.
J'ai l'impression que le gouvernement a passé un petit coup de fil, non, à Doctolib, en leur disant, attendez, vous pouvez un petit peu changer ça, c'est pas bon, là.
Oui, ça peut être une initiative de leur part, pour montrer que ça fonctionne.
Oui, oui, oui.
C'est assez bien pour vous montrer.
Doctolib, magnifique réussite. Ouais. Après, voilà, il y a plein de choses. Le début de la vaccination, des prises de rendez-vous, c'était un peu n'importe quoi, hein, c'était un couac, mais malgré tout, c'est une belle réussite.
Ça marche plutôt bien, ouais.
Emmanuel, rien à rajouter là-dessus sur
juste,
Google Maps.
C'est vrai qu'on voit très rapidement, mais on voit que, par exemple, Amazon ou Walmart aussi veulent mettre à disposition leur hangar pour aider justement la logistique autour de la vaccination, et que plein de sociétés qui, a priori, bénéficient et profitent de la pandémie en termes de chiffre d'affaires, on parlait des résultats de Microsoft ou d'Apple, et ben, ils essayent de montrer aussi qu'ils font des choses pour lutter contre la pandémie.
C'est vrai.
Parce qu'ils ont peur, à un moment donné, d'être stipendiés en disant, regardez, ce sont les profiteurs, les grands gagnants. Donc, c'est quand même aussi de la communication.
Il faut qu'ils apportent leur pierre à l'édifice.
C'est ça, exactement. Au moins en termes de communication, puis en termes d'image, parce que sinon, à un moment ou un autre, il va y avoir un retour de bâton.
Et puis, n'oubliez pas qu'Amazon, c'est 800 000 salariés.
C'est ça.
Aux US.
Ouais.
Donc, il faut les vacciner, parce
que
là encore,
c'est vrai. Ouais.
C'est clair.
Au-delà des obligations sanitaires, mais si après il y a beaucoup de malades, ça va être un problème en termes d'absentéisme. Et Walmart, c'est 1 million d'employés.
Ouais.
1 million d'employés, vous vous rendez compte, là aussi, il faut les vacciner. Merci à tous les deux, Emmanuel Paquette de L'Express et à Nicolas Lelouch.
Merci beaucoup.
Que vous pouvez retrouver sur 01net.com et Emmanuel sur L'Express, bien évidemment. Vous restez avec nous. Quelle nouveauté Panasonic pour cette année 2021 ? On va retrouver le porte-parole France de Panasonic dans un instant. Eric Novel qui me rejoint dans De quoi je me mêle. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, BFM Business, donc à la radio, à la télé le dimanche matin, et puis sur 01 TV, bien sûr, à la fois en replay sur la chaîne YouTube de 01 TV sur 01net.com et sur la chaîne aussi 01 TV sur les box, sur Freebox, sur Box SFR, Orange et Franceat aussi, tiens, si vous êtes abonné à l'offre TNT gratuite par satellite. On va maintenant évoquer encore une fois ce CES, sans doute la dernière fois, hein, ce CES 2021 qui a une saveur un peu particulière, puisque vous le savez, tout s'est fait en virtuel. Quid des nouveautés du côté d'une marque qu'on aime beaucoup ici, c'est Panasonic, hein, le géant de l'électronique japonais, avec Eric Novel qui est notre invité. Bonjour Eric.
Bonjour.
Merci d'être là. D'habitude, c'est vrai que chaque année, on se retrouve du côté du stand, pas très loin du stand Panasonic au CES de Las Vegas. Et bien cette fois-ci, c'est ici, à Paris, dans le 15e. Hein, c'est comme ça. En espérant qu'on puisse se retrouver l'année prochaine.
Je ne pensais pas regretter le CES.
C'est vrai. C'est vrai que pour tout vous raconter, c'est le CES, on le vit, et quand on y est, au bout d'un moment, on traîne un peu des pattes parce que c'est très fatigant. C'est une charge de travail énorme, hein, à la fois pour vous, des marques comme les vôtres, mais aussi pour nous, journalistes, même si c'est passionnant. Et cette année, ça nous manque.
Hein. C'est une course de fond sur 6 jours.
C'est ça.
Entre les journalistes, les nouveautés, les clients, le public.
Bien sûr.
Et c'est vrai que c'est assez répétitif, mais finalement, on s'y habitue.
On s'y habitue.
Ça nous manque.
Et quand on ne l'a pas, voilà.
Exactement. Surtout qu'on n'avait pas eu l'IFA.
Ça nous manque presque autant que les restos, tiens, au passage. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'IFA aussi, le grand salon de la rentrée à Berlin. Eric, avant de d'évoquer les nouveautés de ce CES, parce que même si ça a été un CES, on va dire virtuel, Panasonic en a profité pour annoncer pas mal de nouveautés. Un mot sur cette année 2020 qui vient de se terminer. C'est la question que je pose à tous les porte-paroles de l'électronique grand public que je reçois dans De quoi je me mail. Ça a été une année, j'imagine pour vous, assez intéressante parce que Panasonic, on les connaît dans la télé, on vous connaît dans la télé, et on sait que l'année 2020 a vu l'explosion des ventes de télévision, vous confirmez ?
Alors je dirais plus, en général, l'équipement de la maison.
L'équipement de la maison, ouais, d'accord.
Puisque,
télé compris, mais pas que
voilà,
ça.
Chez Panasonic, on a beaucoup de catégories, ça va de la télé ou tout ce qui tourne autour du salon, mais bien tout ce qui tourne autour du bien-être, la beauté, et puis également l'équipement de la maison avec toute la climatisation, les pompes à chaleur, l'équipement, donc comment recréer son cocon avec les nouvelles technologies, et ça a vraiment explosé sur l'ensemble de ces technologies.
Et tous ces segments du marché ont explosé ?
Tous ces segments, alors la climatisation c'est quand même une tendance de fond, hein, puisque le climat, réchauffement, mais c'est
étant
aussi...
Étant donné qu'on arrive souvent à dépasser les 40 degrés à Paris maintenant en été.
Exactement, donc c'est devenu vraiment un équipement qui est nécessaire et poussé aussi sur la partie pompe à chaleur par l'empreinte écologique, puisqu'on a des solutions qui sont quand même en termes de consommation électrique très basses. Donc ça, c'est comme une tendance de fond. Donc on équipe sa maison, on n'hésite pas à dépenser une certaine somme d'argent pour avoir un confort et une basse consommation. Et puis il y a tout l'équipement autour du salon, puisque à cause du confinement, on est obligé de passer plus de temps. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais le temps passé devant la télé, c'était 3h30, 3h40. On a dépassé les 4h40. Et beaucoup sur du contenu, donc du Netflix et autres, Disney, pour avoir des contenus de qualité. Et donc, une consommation, un changement des écrans télé avec des écrans de qualité, très grands, avec vraiment des écrans premium.
Donc des écrans plus grands. Ouais. C'est rigolo parce qu'il y a quoi ? Il y a un an ou deux, on en parlait ensemble en se disant, le marché de la télé décline parce que c'est vrai qu'on est dans une consommation très personnelle. Les smartphones, les tablettes, chacun regarde son image de son côté. Et là, le confinement a réinversé la vapeur et a fait repartir en fait l'écran de télé qui finalement est loin d'être mort. Et en plus, ce sont des écrans de plus en plus grands.
Alors c'est un phénomène mondial. Hein.
Oui, c'est un phénomène mondial, bien sûr.
C'est un phénomène mondial, c'est pas
qu'un phénomène européen. Et toutes les marques en ont bénéficié. Hein.
Toutes les marques en ont bénéficié. Un chiffre simple, il s'est fait entre 500 et 700 000 télés en plus en France. Donc on a dépassé les 5 millions de télés cette année, avec un pic de consommation post-confinement qui a été très très important. Et l'impact du Covid, c'est pas uniquement sur l'envie des gens de s'équiper, mais aussi c'est tout un écosystème de l'électronique qui a changé. Puisque l'impact du Covid sur les chaînes de production chinoises ont impacté aussi la capacité des marques à s'approvisionner de manière régulière. Donc,
Tendu l'année dernière ?
Ça a été très tendu, ça continue à être tendu. Hein. On se rend compte là que quand on commence à changer un petit peu les habitudes entre la production et puis l'approvisionnement des produits de Chine vers l'Europe, il se crée une dérégulation très, très compliquée et on a sur de nombreuses catégories aujourd'hui encore des niveaux de rupture importants.
D'accord. Quelle est la taille moyenne d'un écran aujourd'hui que les Français achètent ?
Alors, on dit que la taille... standard du salon, c'est entre 50 et 55 pouces.
C'était encore 40 pouces il y a quelques années.
C'était encore 40 pouces. Bon, maintenant, c'est à modérer. Ça dépend. Là, on a vu aussi un gros équipement dans la première partie du confinement sur les petites tailles d'écran pour les chambres.
Pour les chambres,
voilà.
D'accord. Hein,
pour les chambres ou les pièces annexes. Donc, on est dans un... Puisque le prix moyen d'une télé, c'est aux alentours de 500 euros. Et un écran de salon, on va dire, de qualité, on va dire que ça... tourne autour des 800, au-delà de 800 euros. Donc tous les segments ont gagné. Équipement de seconde, troisième pièce, et puis on change également l'équipement de salon. On se fait plaisir, on investit dans les nouvelles technologies, il y en a plein, et des écrans de grande qualité.
C'est-à-dire qu'on investit, mais plus. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire un effort supplémentaire pour se dire, comme je vais plus au cinéma, comme je vais moins au spectacle, comme machin... bah, l'argent que je récupère finalement parce que je ne sors plus, je vais l'investir dans une télé un peu plus grande, peut-être plus belle avec une technologie, peut-être avec un petit home cinéma derrière, etc., pour se recréer, comme vous le disiez, ce cocon, finalement.
Alors, on est sur des écrans qui grandissent, hein, c'est sûr, parce que les prix aussi baissent sur les très grandes tailles d'écran, mais globalement, on a été plutôt sur une tendance de produits premium, donc on a été recherché de la qualité d'abord.
Donc de l'OLED, puisque c'est la...
Donc de l'OLED,
ça fait partie de votre premium, hein, l'OLED. Avec eh bien, voilà, ce qui fait la particularité de Panasonic, hein, le traitement d'image. Et vous êtes aujourd'hui, c'est une réalité, hein, souvent dans le top 3 des meilleures télés, en tout cas haut de gamme, du moment.
Bah, l'OLED a bénéficié de cette tendance. L'OLED a fait mieux que le marché, il a fait plus 20, et le marché a fait à peu près plus 15. Donc on est sur vraiment un équipement très premium des gens.
Très bien. Alors, les nouveautés de ce CES, alors on va évoquer les télévisions. On va évoquer aussi l'appareil que vous avez sorti, qui est assez innovant, en tout cas une espèce de rupture en termes de design et de fonctionnalité. Et puis aussi tout ce qui est bien-être à la maison et forcément les purificateurs d'air qui, en cette période de pandémie, ont peut-être encore plus de sens qu'avant. Mais on commence par les télés. Ouais. Rupture technique, technologique cette année, la télé, où on est toujours dans cette continuité Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez présenté lors de ce CES ?
C'est vrai que l'angle de communication des marques a changé pour le CES virtuel. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on reçoit des journalistes ou du public sur les stands, c'est facile de démontrer des nouveaux produits qui sont différents de la télé. Il y a plein de choses à montrer en son, notamment. Démontrer du son avec des salons virtuels, c'est compliqué. Donc, toutes les marques ont pris un angle d'attaque qui était surtout celui de se focaliser sur la télé, qui parallèlement était lié, bien entendu, à la pandémie. Donc, avec des vraies ruptures technologiques, des progrès dans les technologies,
d'image.
Dans le traitement d'image, et puis surtout des télés qui correspondent aussi à la sortie de consoles de jeux, qui ont été très orientées gaming. Voilà. Donc, les nouvelles consoles de jeux évoluent énormément.
Avec les nouvelles Xbox et les nouvelles PlayStation,
On est sur des jeux qui demandent beaucoup plus de ressources en termes de produits. Oui. Donc,
avec le fameux HDMI 2.1.
Avec le HDMI 2.1. Donc là, il y a plus de flux d'informations qui passent. Plus de flux demandent des processeurs et des téléviseurs qui doivent répondre de manière beaucoup plus rapide. Voilà, une montée aussi au niveau de la luminosité, de la qualité des écrans en général. Donc tout ça a fait quand même beaucoup parler, associé à du son, puisqu'on généralise aussi l'Atmos sur les écrans de télé.
Donc le Dolby Atmos, hein, qui permet d'avoir un
Dolby
son
Atmos,
virtuel, un peu 3D.
Enveloppant. Et puis
intégré dans la télé avec les haut-parleurs de la télé, c'est ça?
Alors, ça dépend, mais en tout cas, nous, on a montré une télé qui, depuis 2 ans, intègre ce qu'on avait avant en barre de son externe. On l'a intégré derrière la télé avec, on va dire, des cheminées sonores qui vous permettent d'avoir vraiment un plug and play. Vous posez la télé et vous avez un son home cinéma dans votre salon de très haute qualité.
C'est comme si j'avais une barre de son intégrée, en fait, mais qui est cachée en quelque sorte.
Exactement, ça a été une barre de son qui a été intégrée à l'arrière de l'écran, ce qui est une vraie prouesse technologique, hein, puisque le son crée des vibrations. Donc, il ne faut pas que ça abîme votre téléviseur qui lui-même est déjà très plat. Donc on avait deux contraintes qu'on a réussi à challenger.
D'accord, donc aujourd'hui une bonne télé, c'est une belle image, c'est un bon son, c'est un beau design, d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, c'est tout l'écosystème de la télé connectée qui est très important, Eric Novel. Et on le voit aujourd'hui, il y a vraiment une stratégie de la part de certains constructeurs de s'associer avec Android TV, d'autres qui, comme vous, développez votre propre service. Il y a aussi Samsung avec son propre système, etc. Où est-ce que vous en êtes, vous, en termes de télévision connectée chez Panasonic?
La Smart TV évolue de toute manière forcément, puisqu'on a un store où vous pouvez downloader la majorité de vos accès sur notre portail. Donc tout ça prend un petit peu de temps, puisqu'il faut l'associer aussi à la capacité du processeur de gérer une excellente qualité d'image. Donc nous, on s'oriente plutôt sur vraiment avoir la télé qui propose le plus grand nombre de formats pour être évolutif dans le futur, et puis également la meilleure qualité d'image. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment le point d'attaque de la marque.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, alors avoir une télé connectée, c'est important, mais c'est pas pour vous le plus important, parce que finalement... quand on branche une télé, on la branche sur Internet, avec vous, mais avec les autres, on a tous les services. Mmh. Mais c'est vrai que vous, vous êtes un peu à la traîne, on va dire, en termes de, d'OS de télévision. Alors, vous avez un système qui permet d'avoir la plupart des services, mais par exemple, il n'y a pas Disney. On voit qu'il y a une vraie latence quand des nouveaux services de SVOD sortent avant qu'ils arrivent sur les télés panasoniques. Pourquoi ne pas vous associer, par exemple, avec un Android TV ou avec un autre fournisseur ?
On se rend compte aujourd'hui quand même que sur la Smart TV, les différentes possibilités d'accès sur une Google TV, sur une Apple TV vont beaucoup plus vite que l'évolution de la Smart TV que vous avez à l'intérieur de votre téléviseur. Vous pouvez envoyer tout votre contenu à partir d'une tablette, d'un téléphone sur votre télé de toute manière. Donc il y a plein de technologies qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un vrai problème. Sans parler des box que l'on a en externe en France, qui en général...
Oui, mais ça fait un boîtier supplémentaire, ça fait une prise HDMI qui est connectée, etc.
Alors, sur le développement des applis, vous parliez notamment de Disney, ça arrivera aussi bien sûr sur le futur, on est en train de les développer, donc ça viendra sur le store. Là, on ne les a pas encore, mais c'est une question.
Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont arriver, hein. On parle de Pluto TV qui devrait arriver bientôt en France, enfin voilà, et puis il y en a d'autres, il y a MyCanal, etc. Pas de précision là-dessus sur ces nouveautés.
Non, on est en train de travailler sur les différentes applications. Elles arriveront sur le store, on va dire, entre 12 et 18 mois.
D'accord. On enchaîne avec une autre nouveauté que vous avez présentée au CES, Eric Novel. C'est une télé transparente. Alors, vous nous avez déjà fait le coup l'année dernière ou même l'année d'avant. Hein. Vous y croyez à cette télé transparente. On ne sait pas trop à quoi ça va servir et comment ça fonctionne. Mais vous avez proposé un nouveau modèle cette année.
Oui, c'est une évolution. Alors c'est intéressant, les salons c'est aussi pour montrer des avancées technologiques.
Hein. Et des concepts,
c'est pas pour montrer que des produits qui arriveront dans votre
salon. C'est le charme aussi de ces salons.
C'est le charme, c'est l'intérêt, donc il y a des technologies qui ne sont pas des réalités aussi aujourd'hui de consommateurs. Par exemple, on parle du micro-LED en ce moment, qui est vraiment une technologie très chère. Nous on a plutôt été sur une technologie un petit peu différente, qui est une évolution de l'OLED, donc une télé transparente. Pourquoi ? Parce que tous les fabricants souhaitent à minimiser le côté noir de la télé, la présence de la télé dans un salon. Ça nous paraît intéressant de travailler de plus en plus sur cette télé transparente qui pourra s'intégrer en fait dans le mobilier du salon de manière assez aisée.
Qu'on comprenne bien, ouais. La télé éteinte, elle est transparente, quasi transparente.
Oui, quasiment transparente, on le voit là. En fait, on peut régler le niveau de transparence du téléviseur. On peut avoir...
C'est comme une fenêtre, en fait, qui...
Oui, comme une baie vitrée légèrement fumée.
D'accord.
Vous avez trois modes de fonctionnement. Vous avez un mode de fonctionnement télé, pur, donc le produit est opaque, hein, noir.
Mais aussi bon que les meilleures télés ou...
Pas encore.
On est encore en dessous.
Non, on est encore en dessous, hein, puisque c'est vraiment... On a dépassé les prototypes, mais on n'est pas encore sur des applications grand public de salon. On est passé du HD au Full HD. Du Full HD, on est en train de passer au 4K et on travaille sur le contraste de la télé. Vous avez un second mode qui est un mode semi-transparent. Là, on le voit à l'écran, qui en fait vous permet d'avoir plutôt une télé qui vous permettrait de mettre des images d'ambiance et puis un téléviseur qui est transparent et qui pourra avoir là, pour le coup, des fonctionnalités, notamment sur le gaming, qui sont totalement différentes. On est plus presque dans la virtual reality. La dernière image. Donc, pour l'instant, c'est une application qui est plutôt B2B, mais on pense que dans le futur, ce sera aussi des téléviseurs qui pourront équiper des salons de manière... s'intégrer dans des bibliothèques, voilà.
Et si je veux acheter cette télé, je peux déjà ou pas ?
Alors, on était sur des prototypes il y a un an et demi, deux ans. Ouais. Là, on est sur des écrans qui peuvent être commercialisés. Donc, c'est le cas déjà en Asie et ça arrivera, je pense, d'ici une petite année en Europe.
D'accord.
Donc, on peut l'intégrer dans une bibliothèque, on le voit ici.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une porte de bibliothèque.
Voilà.
Transparente, si je le veux.
Absolument.
Et ça devient une télé, si...
Absolument. Donc là, on est sur vraiment des avancées technologiques. Ça nous permet aussi d'avancer, hein, de pousser les entreprises à innover. Et puis d'imaginer la télé du futur.
Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a d'autres projets de télé du futur ou pas qui sont nés cette année ou...
Non, on travaille principalement là-dessus pour l'instant.
Mais ça, c'est intéressant, on n'a pas le prix encore, hein, j'imagine.
C'est autour de 15 000 euros. D'accord. Donc on n'est pas sur des prix stratosphériques. Voilà, on avait besoin pour faire fonctionner ce téléviseur d'énormément d'électronique il y a déjà un an et demi. Hein, donc on avait boîtes électroniques très imposantes. Là, on est vraiment sur un produit qui est presque autonome.
En un an, on a réussi à miniaturiser énormément.
C'est pour ça que je vous dis que ça va très très vite. Et on peut imaginer une télé grand public commercialisée, je dirais, entre 2 et 3 ans.
Eric, vous êtes venu avec un autre produit que vous avez annoncé au CES. Ouais. Alors là, on quitte la télé, mais on reste dans le monde de l'image. Alors, on le sait, Panasonic, avec la marque Lumix, fait de très beaux appareils photo, avec divers gammes, etc. Et là, vous avez lancé quelque chose qui est assez en rupture par rapport à ce qu'on voit. De quoi s'agit-il ?
On travaille depuis très longtemps avec Lumix sur la partie vidéo. On a d'abord démarré sur la partie photo, puis on s'est rendu compte qu'en l'usage, on prenait de plus en plus de vidéos. Donc, on avait des produits très, très vidéo. Mais quand on fait de la vidéo, finalement, les gens qui travaillent de manière soit professionnelle, soit experte sur la vidéo ont des viewfinders, des écrans à l'arrière, des batteries qui finalement prennent beaucoup d'espace et de poids et viennent accessoiriser ces produits. Donc on a des produits qui sont assez imposants, assez lourds. Donc là, on est vraiment dans une vraie révolution de la captation vidéo. On l'a vu là sur les images, on est sur des captations qui se font via drone.
Alors, donc, pour tous ceux, parce que c'est vrai qu'on est en radio et en télé, donc c'est juste pour décrire pour tous ceux qui nous écoutent simplement, on a un boîtier carré, imaginez une grosse GoPro, voilà, une très grosse
GoPro. Exactement, on est sur une grosse GoPro. Alors pourquoi ? Parce que le capteur, bien sûr, n'a rien à voir. Et puis tout autour du produit, il y a en fait des slots qui vous permettent d'aller accrocher, plugger tous les accessoires dont vous avez besoin pour faire de la vidéo experte ou pour accrocher ce produit-là sur un drone avec le gros avantage de ce qu'on trouve sur un appareil photo, c'est-à-dire avoir une multitude d'objectifs qui correspondent à votre usage.
Je peux, tout comme sur les Lumix, installer des objectifs interchangeables,
vous
etc.
Avez toute la gamme des objectifs Lumix qui existent aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui, avec des GoPro, on fait de très belles images. Là, on est dans un autre, dans une autre sphère.
Oui, on est dans une image qui est beaucoup plus experte. Et puis surtout,
c'est du pro ou pas ?
C'est du pro expert. Ouais. Pour les gens qui veulent aussi aller en reportage sur des salons, donc on est sur des cibles, les journalistes, les photographes semi-pro, les experts de vidéo, les vlogueurs, énormément de possibilités. On a la facilité aussi de le mettre en captation vidéo sur tout ce qui est en mouvement, de manière beaucoup plus simple qu'un appareil photo ou une caméra traditionnelle. Voilà, et puis on est sur des produits extrêmement légers et très compacts. Donc quand
parce
on
que
voyage
c'est gros,
beaucoup,
c'est imposant, mais c'est relativement léger, c'est ça ?
Oui, c'est assez léger. Ça fait moins de 500 grammes.
D'accord. Et est-ce qu'on peut faire du streaming avec ça ?
Alors, on peut faire du streaming.
Par exemple, j'ai mon drone et je veux retransmettre en direct.
On peut faire du streaming. Il y a toutes les connexions Wi-Fi, toutes les connexions à distance. Et vous pouvez connecter aussi jusqu'à 12 caméras en rafale avec cette même technologie. Donc, vous pouvez avoir aussi des montages vidéo qui sont très intéressants.
Donc, on va dire... Après, vous allez nous parler du prix, mais j'imagine que c'est réservé aux passionnés de l'image, que ce soit pour des drones. Là. Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit effectivement des images assez impressionnantes, professionnelles. Hein. On imagine que même pour le cinéma, ça peut être des solutions légères impressionnantes.
Exactement, ça ouvre vraiment des solutions de captation dans des situations très compliquées, très extrêmes. On a besoin de produits légers et très performants, au-delà de ce qu'on peut avoir sur des action cam. La réalité virtuelle, on le voit, etc.
Mais vous parlez des vlogueurs, etc., mais en général, on a tous des smartphones qui font de plus en plus belles images, on est d'accord, qui suffisent pour la plupart du temps pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez malgré tout qu'ils vont être prêts à avoir ces trucs qui sont quand même un peu plus gros, un peu plus imposants, un peu plus lourds ?
Ça dépend vraiment des contenus qu'on cherche. Si c'est juste un contenu assez simple de vlog, de discussion, bien entendu, tout ce qui existe aujourd'hui, les smartphones, les tablettes, le font vraiment bien. Là, on est plus vraiment sur de la captation, de la post-production pour avoir des contenus qui sont beaucoup plus aboutis.
Après, il y a toute une série d'accessoires, il y a des écrans, etc. Donc, il y a tout un écosystème autour de ce nouveau produit.
Exactement, il y a tout un écosystème.
D'accord.
L'objectif principal étant justement d'avoir une gamme de lentilles qui permettent vraiment d'avoir une utilisation experte.
Ça coûte combien, Eric Novel ?
Ça coûte aux alentours de 4 000 euros.
Et qu'est-ce que j'ai pour 4000 euros? Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc. Je me suis arrêté. 4000 euros. Ah oui, il faut être vlogueur. Voilà, c'est professionnel. Et pour 4000, qu'est-ce que j'ai?
Bah, vous avez les objectifs de base et puis la boîte. Le boîtier, les batteries, quelques accessoires.
Et l'écran, c'est en option?
L'écran, c'est en option parce que de toute façon, les vlogueurs ont des écrans bien spécifiques et veulent s'équiper des produits qu'ils ont vraiment souhaités. L'objectif étant d'avoir un produit de base et pouvoir l'accessoiriser.
Très bien. Dernier volet, parce que c'est vrai qu'on connaît aussi Panasonic sur tout ce qui est, vous le disiez tout à l'heure, bien-être, etc. Climatisation et purificateur d'air. Vous avez présenté des nouveautés aussi, je crois, au CES à ce sujet.
Oui, alors beaucoup de produits existent en Asie. Hein.
C'est bien avant la pandémie d'ailleurs.
Bien avant la pandémie. Donc
comment on peut expliquer d'ailleurs cet engouement pour ces produits en Asie et pas du tout en France, ou en tout cas beaucoup moins?
C'est
la pollution, parce que ce sont des pays où il y a peut-être plus de pollution.
Bien entendu, il y a des villes, des mégapoles qui ont des vrais problèmes de pollution en Asie. Hein. Au Japon également, avec Tokyo, il y a énormément de densité de population. Donc ça crée des problèmes de pollution, d'allergies. Et puis les Asiatiques font depuis maintenant de longues années très attention à leur environnement, au bien-être, qui vient maintenant en Europe. Alors, on ne se parle pas uniquement de la pandémie, hein, la manière de mieux vivre dans son intérieur. On traite tout ce qui est pollen, tout ce qui est poussière, tout ce qui est odeur.
Pollution extérieure aussi ?
Pollution, bien sûr, extérieure. Il y a aussi une efficacité sur des virus traditionnels que vous pouvez avoir, puisque ça purifie l'air, donc vous diminuez aussi le risque d'attraper des virus habituels.
Alors, on le voit là, pour tous ceux qui sont avec nous, qu'en audio, c'est imposant hein, quand même, c'est une grosse machine hein,
alors,
quand même.
Il y a plusieurs tailles. Hein,
c'est pas super design hein, quand même.
Ça
se voit.
Ça dépend de la taille
de la pièce
qu'on veut traiter. D'accord. Bien entendu. C'est pour des pièces, des chambres, c'est assez discret. Là, on a un exemple d'un produit qui est pour un salon d'une certaine taille.
Oui.
Mais on a de toute façon besoin d'une certaine taille pour traiter le flux d'air et le retraiter.
Bien
Donc
sûr.
Là, on a une double capacité, c'est-à-dire qu'on a un filtre qui va traiter. Et en plus, on va régler l'hygrométrie de la pièce en projetant des micro-particules d'eau qui vont purifier et vous donner un bien-être dans la pièce.
D'accord. Et donc, les nouveautés qui ont été annoncées cette année, il y a des ruptures technologiques finalement dans ce domaine, parce que comme vous dites que ça existe en Asie depuis de nombreuses années, est-ce que cette pandémie a changé les choses? Est-ce que par exemple on a des filtres maintenant qui permettent d'éradiquer la Covid ou pas?
On va pas sur cet axe-là, parce que même si on purifie l'air, c'est très difficile de dire c'est efficace contre tel et tel virus, puisque de toute façon ça dépend du nombre de personnes qui rentrent dans
une personne qui rentre,
voilà.
Qui est contaminée par exemple.
Exactement.
Effectivement,
donc il faut un certain temps pour traiter l'air, donc on n'est pas sur cet axe-là, on est plus dans vraiment recréer un bien-être à la maison.
Mais par exemple dans des salles de réunion, oui. Où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui tournent, etc. Peut-être un peu moins en ce moment avec le télétravail, mais malgré tout il y a des réunions physiques hein, qui se font. Ce type de produit peut avoir du sens, non?
C'est bien entendu très efficace dans des lieux de travail, dans des salles d'attente.
Est-ce que ça peut se pluguer à des climatisations?
Alors on intègre cette purification, jusqu'à maintenant, on était vraiment sur des climatisations qui réglaient la chaleur. Hein. Là, on est vraiment sur des machines qui vont maintenant purifier, traiter l'air. Et ce sera intégré dans ces solutions de...
Et ça arrive en France ?
Oui, ça arrive petit à petit en France sur les nouveaux modèles. Donc, il y a une miniaturisation de ces produits. Il y a aussi... une amélioration de tout ce qui est filtre. Hein,
d'accord.
Majorité des pollens sont traités. Bien entendu, tout ce qui est intérieur avec des animaux, les cuisines ouvertes pour pouvoir traiter toute la partie d'odeur.
Et pour, par exemple, purifier un appartement, ça me coûtera combien?
Pour un produit très sérieux de salon, ça va entre 500 et 800 euros.
Et c'est Panasonic qui fait ça. Merci beaucoup Eric pour toutes ces nouveautés. Voilà, même si ce CES était un peu light, vous en avez profité pour présenter pas mal de nouvelles choses. Merci beaucoup.
Merci.
Et ce De quoi je me mêle est terminé. Voilà, alors avant de purifier votre air, je vous rappelle que vous pouvez, avec le hashtag DQJMM, réagir sur Twitter au contenu de ce rendez-vous. Et on sera là, bien évidemment, la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.